Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30 avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. En ce mardi 28 juillet, voici les titres de votre journal. 7 jours d'ITT pour le maire d'une petite commune en Isère. Il a été violemment agressé hier soir alors qu'il demandait à des jeunes d'arrêter de lancer des pétards dans son village. En Gironde, l'incendie qui a brûlé 250 hectares de forêt de pins est désormais maîtrisé. Les pompiers, toujours sur place, attendent avec impatience l'arrivée de la pluie. Payez ses factures, ses amendes ou ses impôts chez votre buraliste, c'est possible depuis ce matin. Une fausse bonne idée selon les agents des finances publiques. Nous en parlerons avec notre invitée Fanny De Coster de la CGT. Les punaises de lit de plus en plus envahissantes, le nombre de consultations chez les médecins à cause de ces bestioles explose depuis un an. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Agnès.
On respire mieux aujourd'hui?
Eh ben oui, même si c'est vrai, il fera encore chaud, mais à Montauban par exemple, plus que 30 degrés cet après-midi, alors qu'il en faisait 38 hier, 30 également à Dijon et Mulhouse, 26 à Paris et à Reims, 23 à Lille, mais encore 35 quand même du côté de Montélimar. Alors en fait, la perturbation de ce matin va se décaler vers le sud, on va la retrouver entre l'Aquitaine, où ça restera bien nuageux, et les Alpes, et attention aux orages entre le Massif central et les Alpes, ainsi que le Jura, ils seront ponctuels mais parfois violents avec de la grêle. Seule la Méditerranée restera à l'écart avec de belles éclaircies et le beau temps reviendra sur la moitié nord.
Merci Peggy, à tout à l'heure. La question du jour sur RTL.fr. Êtes-vous favorable à la fin des terrasses chauffées? Vous dites oui à 63%, non à 28%. Vos appels au 3210, vos réactions sur Facebook et Twitter. Vous en parlerez tout à l'heure, Anaïs Bouton, évidemment. Hein.
Oui, on va parler donc de cette interdiction des terrasses chauffées. Est-ce que cette mesure va dans le bon sens ou au contraire, est-ce que c'est une folie qui va entraîner le dépôt de bilan de nombreux bars ou restaurants qui, avec la crise, n'ont vraiment pas besoin de ça? Venez nous dire si vous êtes terrassé au 3210. Il a comparé les forces de l'ordre, vous l'avez rappelé hier, à la police de Vichy, Agnès. Et pour ça, le maire Europe Écologie Les Verts de Colombes est sous le coup d'une plainte qui a été déposée par le ministre de l'Intérieur. Est-ce que ces propos vous ont choqué? Vous nous appelez au 3210. Et puis Agnès, on continue la bataille des régions, puisque cet été, il sera bleu, blanc, rouge. Hier, Céline nous a emmenés en Alsace et c'était merveilleux. Soyez notre guide touristique du jour au 3210.
Vivement, à tout à l'heure. Merci Anaïs.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et nous commençons ce journal par l'acte héroïque de 5 jeunes près de Rouen. Hier, ils n'ont pas hésité une seconde à sauver un octogénaire bloqué au volant de sa voiture. Bonjour Frédéric Veil.
Oui, bonjour Agnès.
En fait, l'homme était tétanisé sur les rails d'un passage à niveau.
Oui, c'était il y a quelques jours sur un passage à niveau de Notre-Dame de Bondeville. Le train Paris-Le Havre vient de passer, les barrières se lèvent, une voiture s'engage et reste bloquée sur la voie. Ousmane nous raconte la suite.
J'ai aperçu la voiture bloquée sur les rails. Et quand je suis arrivé au niveau du véhicule, j'ai aperçu un octogénaire bloqué à l'intérieur. Il était paniqué, il savait pas quoi faire. Le bas de la voiture, il reposait sur le rail. Donc les roues tournaient dans le vide. Et comme le monsieur voulait pas quitter le véhicule, j'ai appelé plusieurs amis du quartier qui étaient dans les alentours. Ils sont venus en même pas 2-3 minutes. Et on a commencé à pousser la voiture. Et ensuite, on a soulevé le véhicule. Et avec le nombre, on a réussi à la dégager.
Le drame a donc été évité de justesse car à tout moment un autre train pouvait surgir et une fois sur place, eh bien, les secours ont pris en charge l'octogénaire paniqué mais aussi Ousmane, blessé au bras lors de cette intervention périlleuse qui font de lui et de ses 4 copains les héros du quartier.
Un héros, je dirais, non, je suis pas un héros parce qu'en soi j'ai agi comme tout citoyen, je pense, de réagir. Après, j'ai été remercié, puis je suis fier de moi, au moins.
Et il le peut, car Ousmane et ses amis ont évité une inéluctable catastrophe ferroviaire.
Le récit de Frédéric Veil pour RTL. Beaucoup moins belle cette histoire. Hier soir, en Isère, le maire d'une petite commune, celle de Miribel-les-Échelles, a été tabassé par un groupe de jeunes. À l'origine, l'élu voulait faire cesser des jets de pétards sur la place du village, Nerissa Emani.
Oui, exactement. Il est 21h quand William Dufour, le maire du village, entend des bruits de pétards. Il raconte la scène ce matin dans le journal local. William Dufour sort donc de la mairie avec 2 de ses adjoints et aperçoit un groupe de 6 jeunes, âgés selon lui de 16 à 18 ans, en train de jeter des pétards d'artifice sur la salle des fêtes. Le maire intervient, tente de les arrêter, mais les insultes fusent. L'élu reçoit même un pétard d'artifice sur la main et lorsqu'il tente de maîtriser un des jeunes, il récolte plusieurs coups. dont un coup de poing au niveau de l'arcade sourcilière. Résultat, des points de suture, une brûlure à la main et 7 jours d'ITT. Les agresseurs, eux, se sont enfuis en scooter avant l'arrivée des forces de l'ordre. Mais d'après le maire, ils n'étaient pas du village. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Meylan pour les retrouver.
Nerissa Emani pour RTL en Isère. Deuxième règlement de compte mortel en une semaine à Toulon. Hier soir, c'est un jeune homme de 18 ans qui a été assassiné par balle. Le procureur parle d'affrontement entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue. Les syndicats de police le demandaient depuis longtemps. C'est Emmanuel Macron en personne, lors d'une visite surprise dans un commissariat parisien cette nuit, qui a annoncé qu'une indemnité pour les effectifs travaillant la nuit serait désormais versée. Très bonne nouvelle, réagit Patrice Ribeiro, secrétaire général du syndicat Synergie Officier.
Il y a manifestement un changement de ton au plus haut niveau de l'État. C'est ce que nous réclamions, puisque nous avions manifesté pour ça, suite aux propos de Christophe Castaner, qui avait rompu le lien entre les policiers et entre le gouvernement. Bien sûr, il y a d'abord la nomination de Gérald Darmanin, et puis il y a ces gestes du président de la République, qui jusqu'à présent étaient... on va dire, dans un certain mutisme vis-à-vis des forces de l'ordre. Donc aujourd'hui, on voit que nous sommes soutenus au plus haut niveau de l'État. Ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est un message positif. Nous, ce que nous demandions, c'est que le chef de l'État se prononce, savoir si oui ou non il soutenait ses policiers, notamment avec la campagne de bashing qui a eu lieu avec l'affaire George Floyd et puis l'agitation du comité Adama Traoré. Aujourd'hui, le président de la République s'est clairement positionné en faveur des policiers et en faveur des forces de l'ordre.
Patrice Ribeiro, joint par Guillaume Chiez pour RTL. C'est le premier incendie de cette envergure en Gironde cet été. Dans le sud du département, 250 hectares de pins sont partis en fumée. Une centaine de pompiers sont toujours sur place pour éviter une reprise de ce feu. Bonjour Philippe de Maria.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
La météo devrait aider, hein ?
Effectivement, une pluie fine est tombée durant quelques minutes sur le village, rafraîchissant tout le monde. Pas assez, évidemment, pas assez abondante pour éteindre complètement les résidus de foyer. Le colonel Pitot du SDIS 33 explique le pourquoi du maintien du dispositif.
On procède à la surveillance, mais néanmoins, comme vous pouvez le constater, à certains endroits, vous avez des fumerons. Et notre objectif, c'est d'éviter que ça puisse se propager au reste de la forêt qui est encore actif. Nous avons très peu de rocades et d'accès, et donc nous sommes obligés d'aller à l'intérieur du massif avec les camions-citernes pour pouvoir traiter au cœur du feu.
Et les habitants vont pouvoir rentrer chez eux. La maire du village, Christiane Béniche, a très peu dormi la nuit passée.
Courte, très courte. Mais bon, il faut être là pour un petit peu recevoir les pompiers qui venaient se désaltérer, se nourrir. La forêt, la sylviculture en a pris un coup. Il y a à peu près 300 hectares qui ont été détruits. Il y a quand même beaucoup de sylviculteurs autour, donc beaucoup de biens qui sont partis en fumée en grande partie.
Et selon nos informations, l'enquête de la gendarmerie identifie un seul départ de feu pour ce gros incendie. Il a démarré en bordure d'une départementale et la cause de cet embrasement n'est pas encore connue.
Merci beaucoup Philippe de Maria en direct pour RTL. La nuit dernière, c'est dans le Loiret que 250 hectares également de forêt et de friches près de Vienne en Val ont été ravagés par un incendie. Le feu est désormais sous surveillance. Il n'y a eu aucun blessé. Depuis plusieurs heures en Allemagne, on vient de l'apprendre, la police fouille un jardin ouvrier à Hanovre. Ses recherches sont liées à la disparition de la petite Maddy McCann il y a 13 ans, alors qu'elle était en vacances avec ses parents au Portugal au moment de sa disparition. La fillette était âgée de 3 ans. Une pause et dans un instant, la possibilité de payer ses amendes, mais aussi ses impôts chez le buraliste. Bonne idée ou pas, on en parle avec notre invité.
RTL Midi. RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Depuis ce matin, il est possible de payer certaines factures chez les buralistes, la cantine de vos enfants, la crèche, mais aussi des amendes ou vos impôts. En fait, Martial You, c'est grâce au système informatique de la Française des Jeux que cela va se faire.
Oui, c'est la même plateforme informatique qui sera connectée avec le service des impôts. Ça permet d'avoir un système unique qui existe déjà et qui est présent dans la plupart des bureaux de tabac. Et d'ailleurs, l'État paiera l'allocation de son réseau à la Française des Jeux et il rémunérera également les buralistes pour ce service à hauteur de 1,50€ par opération. Alors pour vous, c'est très simple. Hein. Vous recevrez votre amende ou votre courrier des impôts sur lequel il y aura ce qu'on appelle un QR code. Vous savez, c'est ce gros carré là qui fonctionne un peu comme un code barre. Il suffira de scanner ce code. Alors attention, le montant sera automatiquement payé par carte bancaire ou en liquide, mais dans ce cas-là, c'est dans la limite de 300 euros seulement, impossible de régler le montant par chèque. Les buralistes ont déjà un statut d'agent assermenté par l'État pour un certain nombre de services, notamment la vente de tabac, de certains timbres fiscaux. On peut même obtenir un compte en banque ou une carte bancaire avec nickel. C'est donc une diversification de plus pour eux dans le cadre de leur mission publique, alors que les ventes de cigarettes, on le sait, sont plutôt en chute libre depuis quelques années. Le gouvernement estime que ça pourrait concerner 2 millions d'opérations par an et garantit que le buraliste n'aura accès à aucune de vos données personnelles. Il ne verra que la somme à régler.
Merci beaucoup pour ces explications. Martial You, alors l'objectif, on l'a entendu, est clair, faciliter le paiement de certaines factures. Et pourtant, le dispositif ne fait pas l'unanimité. Avec nous, Fanny de Coster de la CGT Finances Publiques. Bonjour madame.
Bonjour.
Que reprochez-vous concrètement à cette mise en place chez les buralistes ?
Mais ce qu'on reproche concrètement à cette mise en place, c'est que ça va s'accompagner par la désertification des services publics de pleine compétence dans les territoires, puisque ce ne sera pas un service supplémentaire qui sera offert, mais bien de substitution. C'est-à-dire que par contre, vous ne pourrez plus payer vos impôts et toutes les autres factures que vous pourriez avoir à payer en liquide dans les services des finances publiques. Donc à côté de ça, il y a une suppression massive de trésoreries qui sont implantées dans les territoires ruraux, qui vont disparaître, et donc c'est l'éloignement du service public des usagers.
Mais ça, on en est sûr, effectivement, ça va entraîner la suppression de postes ?
Ah, tout à fait, elles sont déjà prévues. Hein. Il y a plus de 1200 suppressions de trésorerie qui sont prévues pour l'année qui vient. Donc c'est déjà prévu, c'est déjà dans les tuyaux, et donc c'est pour faire une simili-compensation de cette disparition des services publics.
Peut-on parler, selon vous, de disparition régalienne de l'État ?
Ah bah tout à fait, puisque le consentement à l'impôt fait bien partie de la Constitution. C'est une mission régalienne, hein, l'encaissement de l'impôt. Et c'est donc une mission qui s'en va au privé et qui est pour nous une porte ouverte dangereuse, justement, au glissement des missions régaliennes vers le secteur privé. Il faut savoir quand même que dans les missions régaliennes de l'État, ce sont des fonctionnaires avec un statut qui, contrairement à ce qu'on peut penser, protège plus les usagers que les fonctionnaires. Hein. C'est bien pour les usagers qu'il a été mis en place. Et donc, tout ça, ça disparaît. C'est-à-dire que le secret professionnel, etc., auquel sont soumis les fonctionnaires, disparaît de la même manière.
Alors, si je vous entends bien, hein, Fanny de Coster, on entend bien le gouvernement d'un côté qui avance l'argument de la proximité, mais vous vous dites, attention, il y a un revers de la médaille, c'est-à-dire que dans certains territoires, on ne pourra plus se rendre physiquement dans des centres d'impôts.
Ah, tout à fait, oui. 1200 suppressions de trésorerie qui sont les petites structures de l'administration fiscale et qui sont implantées justement dans des territoires déjà où il n'y a pas beaucoup d'autres implantations. Et ces trésoreries vont disparaître. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on remplace un service public de pleine compétence, donc sous-entendu où vous pouvez, quand vous allez dans une trésorerie ou dans un centre des finances publiques, vous pouvez payer vos impôts, vos factures, mais aussi avoir un délai de paiement, obtenir un délai de paiement en cas de besoin, avoir des renseignements sur la fiscalité, sur ce que vous devez à l'État, etc. Et en fait, tout ça disparaît, puisque chez le buraliste, vous ne pourrez que payer. Donc tout ce qui va avec le service public de pleine compétence va disparaître des territoires ruraux.
Et vous avez prévu des actions pour protester contre cette mise en place chez les buralistes
Alors, ça fait partie d'un ensemble, hein, puisque ça s'appelle le nouveau réseau de proximité qui avait été mis en place par le ministre Darmanin à l'époque. Donc, on s'est déjà fortement mobilisé depuis juin 2019, hein, jusque malheureusement la crise Covid qui a évidemment tout stoppé au niveau des mobilisations. Il y a eu des grandes manifestations. On est soutenu d'ailleurs dans notre mouvement par beaucoup d'élus locaux, hein, qui regrettent aussi désespérément de voir encore une fois disparaître des services publics de leur territoire déjà pas forcément très fournis en service public. Et donc, ça a déjà été une grosse mobilisation et a priori, elle va forcément reprendre à la rentrée, même si pour l'instant, que ce soit notre administration ou nos ministres de tutelle restent complètement fermés à toute discussion sur ce sujet.
Merci beaucoup Fanny de Coster d'avoir été l'invitée de RTL Midi. Je rappelle que vous faites partie de la CGT Finances Publiques. Merci encore. 700 entreprises suspectées d'avoir abusé du chômage partiel pendant le confinement. Ce matin, la ministre du Travail sur RTL, Elisabeth Borne, a promis la plus grande fermeté face aux fraudeurs. 50 000 vérifications supplémentaires doivent être réalisées avant la fin de l'été. À l'instant, cette information, hein, que j'apprends en même temps que vous, le décès de l'avocate et figure féministe Gisèle Halimi. Elle avait 93 ans, nous y reviendrons évidemment avant la fin de ce journal. Pas plus de 5000 personnes dans les stades jusqu'à la fin du mois d'août. Au moins, le gouvernement décide de maintenir cette jauge maximale à cause du coronavirus, mais les préfets pourront accorder des dérogations si la situation sanitaire le permet. Pendant ce temps-là, eh bien, les autorités allemandes s'inquiètent de l'augmentation de nouvelles infections dans le pays et déconseillent de voyager dans certains pays, notamment trois régions en Espagne. Les fans de foot sont désormais fixés. Mediapro, nouveau détenteur des droits de la Ligue 1 et la Ligue 2, vient de confirmer avoir trouvé un accord avec le groupe Altice pour la codiffusion de la Ligue des Champions et de la Ligue Europe pour la saison 2020-2021 sur sa chaîne Téléfoot. Deux formules d'abonnement seront proposées, un abonnement annuel à 25,90€ par mois et un sans engagement à 29,90€. Pour Julien Bergeau, directeur général de Mediapro Sport France, l'offre est très compétitive. Écoutez.
Si on voulait recréer cette offre aujourd'hui avec nos 8 matchs de Ligue 1, nos 8 matchs de Ligue 2, notre top 10, il vous faudrait dépenser aujourd'hui au minimum 64,90€ par mois pour avoir un pack sport avec l'ensemble des chaînes qui proposent l'offre que nous allons proposer pour la somme de 25,90€ pour les abonnés qui vont avoir pour la première fois la capacité de trouver l'ensemble de ces compétitions sur une seule et même chaîne.
Des propos recueillis par Eric Silvestro pour RTL. Le chiffre est impressionnant. En un an, plus de 70 000 Français ont consulté un médecin à cause des punaises de lit. Ces insectes sont en recrudescence dans le monde entier et c'est bien pour cela d'ailleurs que le ministère de la Santé a demandé une étude sur le sujet dans notre pays. Thierry Blanchon, le responsable du réseau de médecins sentinelles qui a dirigé ces travaux.
Pour une fois, on a vraiment des données qui viennent directement des médecins. 70 000 consultations, effectivement, c'est quand même un chiffre assez important et qui montre que c'est un problème de santé réel. Les punaises de lit ne transmettent pas de maladies infectieuses, mais on voit que ça a des répercussions en santé quand même assez importantes. Le motif principal de consultation, c'est plutôt des lésions cutanées ou des surinfections suite aux lésions de grattage. Mais on voit en fait qu'il y a quand même un retentissement important puisque près de 40% des gens qui viennent en consultation se plaignent d'insomnie liée aux punaises de lit. Et puis 40% à peu près aussi se plaignent d'un retentissement dans leur vie de tous les jours, leur travail, sur la vie sociale ou encore bien évidemment sur la vie familiale. C'est lié essentiellement aux angoisses que ça peut occasionner. Et le plus souvent, les punaises de lit vont se nicher dans les matelas et vont pendant notre sommeil nous piquer. On peut imaginer que c'est quand même assez inconfortable de se dire qu'on n'arrive pas à éliminer les punaises de lit qui sont chez soi. C'est source d'angoisse bien évidemment pour les gens.
Le docteur Thierry Blanchon, responsable du réseau de médecins Sentinelle. Des punaises à l'hippopotame, on passe à un animal beaucoup plus gros, qui normalement vit en Afrique. Pourtant, en Colombie, un troupeau squatte le plus grand fleuve du pays. C'est le drôle d'héritage du célèbre chef de cartel Pablo Escobar. Alors expliquez-nous le rapport, Christophe Decroix.
En fait, le narcotrafiquant s'était monté un formidable zoo dans l'une de ses haciendas près de Medellín. Près de 2000 animaux exotiques venus du monde entier, des chameaux, des éléphants et 4 hippopotames, 3 femelles et un mâle. Quand Escobar est mort, fin 93, la plupart de ces animaux ont été confiés à des zoos, mais pas les hippopotames, trop lourds, trop dangereux et trop chers à déplacer. Alors, on les a laissés dans la rivière qui borde l'hacienda. Et ils s'y sont bien plus. De 4, ils sont devenus 80. Oui. C'est le plus grand troupeau hors d'Afrique. Et comme il manquait de place, ils sont sortis de leurs espaces pour aller coloniser le fleuve Magdalena en toute liberté. On en retrouve maintenant à 150 km de là. Alors aujourd'hui, il y a ceux qui s'inquiètent des dégâts sur l'écosystème, il y a ceux qui ont peur, comme les pêcheurs locaux, mais en réalité, ils sont devenus une attraction touristique. Ces mastodontes sont devenus la mascotte du village voisin où l'on peut voir des panneaux « Attention, hippopotame ». D'ici 30 ans, ils pourraient être des milliers et si c'est le cas, ça va faire du bruit. Pour vous faire une idée, je vous en ai ramené un.
Ah oui, c'est ça, vous le faites.
Pas moi.
On peut dire aux auditeurs que c'est vous qui le faites bien. En revanche, vous ne me dites pas si un hippopotame est visible de l'espace, Christophe Decroix. Alors on demandera à Thomas Pesquet, puisque le spationaute français vient d'annoncer qu'il repart vers la Station Spatiale Internationale l'année prochaine à bord d'une capsule SpaceX. On devra avoir plus de détails dans les heures qui viennent sur cette nouvelle mission. Une pause et dans un instant, comme tous les mardis, nous nous intéresserons, je vais y arriver, à la découverte d'un vaccin qui a révolutionné la médecine.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
La chronique du jour, comme tous les mardis, est consacrée aux vaccins qui ont tous une histoire extraordinaire. Alors, on n'a pas encore trouvé le remède miracle contre le coronavirus. Mais cet été, nous avons voulu revenir sur ces vaccins qui ont permis de lutter contre les principales épidémies. Aujourd'hui, Odile Pouget, on parle de celui contre le papillomavirus.
RTL. Tous les vaccins ont une histoire.
Par rapport à tous les autres, ce vaccin-là a une originalité.
C'est l'un des seuls vaccins qui sait prévenir un cancer, qui est un cancer grave.
Alexandra Léry, oncologue médicale à l'Institut Gustave Roussy.
Les cancers du col, même si c'est une maladie relativement rare, puisqu'on en a 3000 par an, on a plus de 1000 décès, ce qui veut dire qu'une femme sur trois a un risque de décéder de ce cancer.
L'histoire du vaccin contre le cancer du col de l'utérus est extrêmement récente, comme en témoigne le professeur Jean-Luc Mergui, gynécologue obstétricien et responsable de l'unité de colposcopie à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris.
Quand j'ai commencé à m'occuper du cancer du col et de ses précurseurs, c'était dans les années 80. On ne savait même pas quelle était la cause de ce cancer. On savait que c'était dû probablement à une maladie sexuellement transmissible, puisque les femmes qui n'avaient jamais eu de rapport n'avaient pas de cancer et que celles qui en avaient pouvaient avoir un cancer.
Grâce aux travaux d'un Allemand, Harald zu Hause, couronné par un prix Nobel de médecine des années plus tard, en 2008, on découvre que ce cancer, responsable de 230 000 décès dans le monde, est dû à un virus très fréquent chez les filles et les garçons, appartenant à la famille des papillomavirus humains, le fameux HPV.
C'est un virus qu'on attrape presque tous au début de notre vie sexuelle, entre 18 et 25 ans. 80% d'entre nous l'attrapent et environ 90% d'entre nous s'en débarrassons spontanément. On sait que les Égyptiens, on a retrouvé sur les momies ce fameux papillomavirus. Quand on l'a découvert, on le retrouve même sur des personnes qui sont mortes il y a des milliers et des milliers d'années.
Les premiers essais cliniques ont lieu au début des années 2000. Le vaccin cible les HPV 16 et 18, responsables de 70% des cancers du col. L'efficacité et la tolérance se révèlent très bonnes.
Grâce à la biologie moléculaire, on est arrivé à fabriquer l'enveloppe de ce virus, son pourtour. Eh bien, on arrive en l'injectant à créer une réaction immunitaire et donc à se défendre activement contre le virus, ce virus dont on n'a aucun traitement pour l'instant.
Fin 2006, le vaccin reçoit une autorisation de mise sur le marché. Il sera commercialisé en France sous le nom de Gardasil et recommandé aux adolescentes à partir de 14 ans. Quelques années plus tard, la polémique éclate. Des jeunes filles accusent le vaccin d'avoir provoqué chez elles des maladies auto-immunes, lupus, sclérose en plaques. Combat judiciaire incarné par Marie-Océane Bourguignon, 18 ans. Marie-Océane qui témoigne ce jour-là sur RTL avec ses parents Evelyne et Jean-Jacques.
Au bout de la première injection, dans les 15 premiers jours, je commençais à sentir des fourmillements au bras et à la jambe. Ma jambe, je la sentais plus.
Et chaque fois qu'on l'a ramenée d'hôpital en hôpital, on l'a ramenée de moins en moins bien, quoi.
Encore aujourd'hui, elle est tout le temps fatiguée. Elle ne fait pas des semaines entières de cours. Elle a un parcours, je ne sais pas ce qu'elle va devenir.
Les plaintes seront classées sans suite. Pas de lien de causalité entre le vaccin et des pathologies du système nerveux central. Les études scientifiques sont formelles. À l'époque, Daniel Floret, président du comité technique de vaccination, prend la défense du Gardasil.
Il n'y a aucun signal de ce côté-là en France. Les données de pharmacovigilance internationale ne montrent pas non plus de lien entre ce vaccin et une quelconque maladie auto-immune. Des millions de doses ont été distribuées. On monte en épingle des effets pervers éventuels. On oublie ce qu'apporte le vaccin.
Une polémique qui laissera des traces. La France est l'un des pays où la couverture vaccinale est la plus faible. Moins de 25% des jeunes filles ont reçu les trois doses. Quant aux garçons, eux aussi concernés par un tiers des cancers liés au papillomavirus, pénis, anus, amygdale, gorge, la Haute Autorité de Santé vient tout juste de recommander leur vaccination entre 11 et 14 ans. Alexandra Léry.
Cette infection touche autant les hommes que les femmes. D'ailleurs, le plus souvent, les hommes sont asymptomatiques. Donc, en plus, ce sont ce qu'on appelle des porteurs sains et qui, donc, sont souvent ceux qui vont contaminer une jeune femme qui, elle, aura des symptômes. Donc, il paraît logique de vacciner tout le monde si on veut éliminer le virus d'une population.
C'est le pari de l'Australie où des campagnes de vaccination massives et gratuites sont organisées dans les collèges. En 10 ans, le taux de femmes porteuses des deux papillomavirus les plus dangereux a chuté spectaculairement. L'Australie qui promet que dans moins de 20 ans, grâce au vaccin, le cancer du col de l'utérus ne sera plus qu'un mauvais souvenir.
Une chronique à réécouter évidemment sur notre site rtl.fr. On retrouve Anaïs Bouton avec qui vous allez dialoguer au 3210 dans quelques minutes. Alors, quels sont les sujets d'actualité que vous allez aborder, Anaïs ?
La fin des terrasses chauffées, pour ou contre ? La polémique autour des propos du maire de Colombes qui a comparé les forces de l'ordre à la police de Vichy. Est-ce que vous êtes choqués ? Et puis, Agnès, on vit un été pas comme les autres. On a décidé de demander aux auditeurs d'être les guides touristiques de leur région. Venez nous raconter les merveilles à côté de chez vous au 3210.
Merci, à tout à l'heure Anaïs. La météo, Peggy, il fait moins chaud aujourd'hui, ça tourne même dans l'orage dans le sud, dites donc.
Et oui, entre l'Auvergne, les Alpes et le Jura, Agnès, ça va cogner. Alors, ce sont des orages ponctuels, isolés, mais qui peuvent être forts, donc vigilance avec du vent et de la grêle. Ça restera bien nuageux dans le sud-ouest, et puis la Méditerranée en revanche sera épargnée avec un temps sec et un ciel plus lumineux. De belles éclaircies également vont revenir sur toutes les régions au nord de l'Aquitaine, et encore plein soleil en Corse, tout ça sous des températures, vous l'avez dit, en baisse, de 37,5 hier à Toulouse, on redescend à 30 degrés aujourd'hui, ça fera du mieux, on va respirer un peu mieux. 30 également à Montpellier et Clermont-Ferrand, 29 à Strasbourg, 26 à Paris, 25 à Nantes, 23 à Caen, et ça reste bien chaud près de la Méditerranée, 32 à Marseille et Perpignan, jusqu'à 35 à Montélimar.
Merci beaucoup Peggy. Dans un instant, vous l'avez entendu, vous prenez la parole au 3210. Anaïs Bouton est dans les starting blocks.
RTL, il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Anaïs Bouton.
Vous écoutez RTL et RTL vous écoute. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on vous propose de discuter ensemble de la fin des terrasses chauffées, de la plainte de Gérald Darmanin contre le maire Europe Écologie Les Verts de Colombes. Il avait comparé les forces de l'ordre à la police de Vichy. Et puis, on continue le match des régions. Venez nous raconter votre région. Mais tout de suite, l'essentiel de l'information avec vous, Agnès Beaufillon.
La mort de Gisèle Halimi à 93 ans. L'avocate et ancienne députée a consacré sa vie à la cause des femmes. Écoutez, c'était en 1977, elle se battait pour que le viol soit reconnu comme un crime.
Quand une femme est violée, on commence par dire mais elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, elle n'avait qu'à pas sourire, elle n'avait qu'à pas sortir, elle n'avait qu'à pas, à la limite, elle n'avait qu'à pas exister en tant que femme. Et à la cour d'assises, nous demandons, c'est une des propositions de loi que Choisir va déposer incessamment sur le bureau du garde des Sceaux et à l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait pas de huis clos, c'est-à-dire, sauf bien entendu, la seule réserve, si la jeune femme violée le réclame elle-même. Nous voulons donc la publicité. Ouais, cour d'assises et publicité. Parce que nous pensons que une chose pour un homme est de violer et autre chose est de vouloir qu'on le sache dans son village, dans son travail, dans les journaux. Donc la publicité peut jouer comme un moyen de dissuasion.
Gisèle Halimi qui s'est donc éteinte à l'âge de 93 ans la nuit dernière. Des fouilles ont lieu actuellement en Allemagne, près de Hanovre, dans un jardin ouvrier. Elles sont liées à l'enquête sur la disparition de la petite Maddy McCann. Elle avait disparu, cette fillette, il y a 13 ans au Portugal, alors qu'elle était en vacances au Portugal. Avec ses parents, pardon. C'est reparti pour un tour dans l'espace. Thomas Pesquet se rendra l'année prochaine dans la Station Spatiale Internationale, mais cette fois à bord de la capsule SpaceX. Comme tous les jours cet été, nous retrouvons Éric Jean-Jean qui nous raconte l'histoire d'une chanson mythique. Anaïs, debout, vous allez danser. C'est sûr. Bonjour Eric.
Bonjour, aujourd'hui je vous parle d'un ampli déchiqueté au cutter qui est peut-être l'acte de naissance du hard rock. Bienvenue chez les Kings dans You Really Got Me.
Bonus track avec Éric Jean-Jean sur RTL.
Paul McCartney a souvent dit que c'est lui qui a inventé le hard rock avec l'incroyable Helter Skelter tiré du double blanc des Beatles en 68. Après tout, c'est sûrement vrai. Mais il n'empêche qu'un ampli, volontairement lacéré par Dave Davies des Kings, en a donné 4 ans plus tôt un sacré avant-goût. Explication. Les Kings, c'est un groupe anglais issu de East Finchley, au nord de Londres, et formé en 63 par les frères Davies, Ray, Douglas dit Ray et David Russell Gordon dit Dave. C'est sur le piano familial début mars 64 que Ray Davies compose ce qui sera le premier succès des Kings. Au départ, on est plutôt dans une ambiance jazzy et c'est Dave Davies, guitariste et fondateur du groupe, qui parvient à convaincre son frère que le solo serait beaucoup plus efficace avec une six cordes. Il faut attendre l'été 64 pour que le groupe enregistre le morceau. Entre-temps, ils ont fait deux disques qui n'ont pas du tout marché. Autant dire que le jour de l'enregistrement, il y a des tonnes de pression. Nous sommes le 4 juillet 1964 dans les studios IBC de Londres. Après deux versions bluesy, personne n'est très content du résultat, mais la maison de disques qui voit le compteur tourner refuse d'en payer une troisième. Alors on négocie. Ok, une dernière. Mu par la magie, l'énergie du désespoir, la trouille ou peut-être tout simplement la grâce, Dave Davies tente le tout pour le tout. Il lacère la membrane de son ampli guitare au cutter, puis met dans les trous qu'il vient de faire des objets métalliques pointus. Résultat, un son dingue et surtout l'un des riffs de guitare les plus célèbres de tous les temps qui vient de naître.